Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Dans un discours visionnaire daté du 23 juin 1938 et intitulé « Le racisme, base du fascisme », Henri Levin, d'origine juive, né en janvier 1902 à Varsovie, en Pologne, avocat à la Cour, vice-président de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, futur résistant et futur chef du réseau VIC dès 1942, livrait aux participants du premier congrès national du Secours populaire de France et des colonies, à Paris, son analyse de la montée du racisme et subséquemment du fascisme en Europe. Ce discours, particulièrement riche et argumenté, a fait l'objet d'une brochure publiée dès 1938 aux éditions du Secours populaire et il reste d'une étonnante actualité. Le racisme, base du fascisme. Extrait du discours de Henri Levin, 23 juin 1938. Le Secours populaire, œuvre de solidarité, née de la solidarité, vivant pour la solidarité, ne saurait négliger des mouvements qui sont la négation même de la solidarité. Le racisme n'est-il pas, en effet, l'ennemi naturel de la solidarité ? Qui dit racisme dit discrimination, qui dit racisme dit inégalité, qui dit racisme dit persécution. Si l'on néglige les origines pseudo-philosophiques du racisme, si l'on s'en tient à ses manifestations pratiques, on peut dire que le racisme, appliquant une sorte de néo-darwinisme aussi pédant qu'ignorant, essaie de bâtir l'humanité non seulement sur la perpétuation de l'injustice, mais sur son aggravation. À l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme qui proclamait que tous les hommes naissent et vivent égaux en droit, le racisme proclame que tous les hommes naissent inégaux en droit. S'il se contentait de cette affirmation, le mal ne serait pas grand. Le malheur est que cette affirmation initiale est à la base de tout son développement. Le racisme est une somme de théories qui permettent à chacun de dire que sa race est la meilleure, la plus pure, et qui, dans cette affirmation purement gratuite, scientifiquement infirmée, trouve la force pour dénier aux autres races le droit de la vie. Cette théorie est-elle au moins nouvelle ? Non, puisque de tout temps, les peuples ont eu une tendance à se croire privilégiés. L'Ancien Testament offre l'exemple le plus typique de cette tendance séculaire. Il est toutefois étrange que ce soit le peuple le plus hostile à l'Ancien Testament qui ait repris à son compte la théorie prescrite et périmée du peuple élu. Le peuple élu, dont les Juifs modernes sont d'ailleurs les premiers à rire, eh bien il s'est réfugié en Allemagne. C'est Hitler qui a repris le qualificatif désuet. Mais Hitler n'a pas puisé uniquement aux sources bibliques. Il a trouvé dans la philosophie allemande et surtout dans la philosophie nietzschéenne les éléments de sa doctrine. Il suffit cependant d'un examen superficiel de l'œuvre de Nietzsche pour voir combien l'auteur de « Ainsi parlait Zarathoustra » a été travesti même par son disciple. Car si Nietzsche rêvait d'une société supérieure, régie par des surhommes, si avant lui Renan parlait de l'Aréopage des savants, réédition moderne de la République de Platon, qui alliait en elle le goût sélectif de la période pré-chrétienne avec le goût collectif de notre société moderne, Hitler a inauguré, lui, sous un vernis darwinien, la société des sous-hommes. Nulle part, en effet, les savants, les intellectuels, les artistes ne sont autant brimés qu'en Allemagne. Nulle part l'intelligence n'est aussi bafouée, nulle part le nivelage par le bas n'a fait de si vertigineux progrès. N'oublions pas le mot de Goebbels qui dépeint toute une mentalité. Je cite « Quand j'entends le mot de culture, j'ai envie de décharger mon revolver ». Voilà donc la société raciste, basée sur la sélection de l'espèce et de l'esprit, condamné à bannir l'esprit pour tenter de se maintenir. Mais si le racisme n'a pas pour but de donner la prédominance aux éléments supérieurs, que se propose-t-il d'atteindre ? L'histoire même de son développement en Allemagne nous en fournit la meilleure réponse. Pour atteindre ses buts, Hitler a usé de deux procédés également habiles, également démagogiques. La diversion extérieure, offerte par le traité de Versailles, la diversion intérieure, fournie par l'antisémitisme. L'Assemblée de Weimar, en donnant à l'Allemagne une constitution libérale, a permis à beaucoup de juifs de prendre une part active à la politique du pays. Malgré les réticences persistantes des classes aristocratiques, plusieurs juifs ont pu occuper des postes de premier rang. Cette pénétration des juifs dans un domaine qui leur était virtuellement fermé a suscité des jalousies, d'autant plus que cette entrée sur la scène politique se produisait à une époque où l'Allemagne, ulcérée par la défaite, avait une tâche particulièrement difficile à accomplir. Quoique le rôle des juifs fût parfois des plus secondaires, on s'ingénia à en exagérer l'importance. De là à dire que les juifs étaient la cause de tous les maux dont souffrait l'Allemagne, il n'y avait qu'un pas. Il fut vite franchi. Mais on ne pouvait présenter la tentative avérée de spoliation qui suivit comme une mesure prise envers des êtres sans défense. Il fallait donc représenter les victimes non comme des êtres faibles qu'on pouvait impunément dépouiller, mais comme des êtres dangereux qu'il s'agissait de désarmer et d'anéantir. Cette offensive, déclenchée dans une époque où l'Allemagne était en plein désarroi économique, où les suites de la guerre se faisaient sentir dans toutes les couches de la société, ne pouvait que trouver des oreilles complaisantes. Il y avait une catégorie de citoyens à exproprier, sans qu'il fût besoin de procéder à une révolution qui renversa les modes de production. On parlait de la lutte des classes pour la flétrir, mais on parlait de la lutte des races pour réaliser l'expropriation à l'encontre des seuls juifs. S'il avait fallu des siècles d'évolution morale pour arracher des esprits les préjudices de race, il suffit d'un vent de défaite pour les ranimer aussitôt. Le fascisme, comme le racisme, se réclame d'une idéologie prétendument sélective. Le fascisme, né de la peur conjuguée des classes moyennes et du capital devant le prolétariat menaçant, a trouvé dans le racisme un allié, soucieux de livrer aux masses qu'elles prétendaient aguerrir un prétendu coupable qu'il s'agissait de museler et de punir. Le racisme n'a pas besoin de revêtir un caractère uniquement antisémitique. Il suffit qu'un pays possède des minorités ou même des majorités dont il veut se différencier, pour qu'il pratique une politique raciste.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.